Est-ce la bonne décision ? Quelque chose ? Est-ce trop tard pour moi ? Prenez vos décisions d'investissement avec le soutien de Clarity AI. Gérez votre portefeuille tout en lui assurant une croissance durable grâce à l'association d'une IA puissante et d'une grande expérience de l'industrie. Notre technologie augmente l'efficacité des processus réglementaires, y compris ceux liés à l'article 29 de la loi Énergie-Climat. Réduisez les risques et atteignez vos objectifs de durabilité en vous basant sur des faits vérifiés et des méthodologies transparentes. Clarity AI, la technologie au service des décisions humaines. Rendez-vous sur clarity.ai et passez à l'action dès aujourd'hui.
Débat et controverse sur BFM Business. Nicolas Dose accueille les experts.
Bonjour et bienvenue à l'actualité économique du jour. Qu'est-ce qui nous distingue de nos voisins en matière de dépenses publiques ? Fipeco.fr nous livre la photographie. Il n'y a pas de grande surprise, mais on est en plein débat justement sur la croissance qui ralentit, la nécessité de faire des économies, avec la fameuse formule de la semaine prononcée par Bruno Le Maire dans les colonnes du JDD, passer de l'État-providence à l'État-protecteur. Il y a plein d'idées dans cette interview de 3 pages. Moi, je me dis que s'il était ministre, ce serait bien, parce que comme ça, ça pourrait peut-être voir le jour. La Banque Centrale Européenne, alors est-ce qu'elle va baisser 3 fois ses taux, 4 fois ses taux? Visiblement, il ne faut rien attendre avant le mois de juin. Pourtant, tout le monde dit, quasiment à l'unisson désormais, que les baisses de taux devraient débuter dès aujourd'hui. Et puis, la Banque du Japon crée l'événement quand même cette nuit, car elle décide d'abandonner sa politique de taux négatifs. On parlera des panneaux solaires chinois. Il y a de la surproduction en Chine aussi dans cet univers et il y a là-bas des licenciements. On essaiera de dire un petit mot du salaire du patron de Renault qui augmente de 30% cette année. Alors évidemment, ceux qui s'indignent des salaires des patrons s'indigneront, mais il est intéressant de regarder la situation qui justifie cette augmentation importante entre 2023 et 2024. Bonjour Xavier Jaravel.
Bonjour Nicolas.
Bienvenue, professeur à la London School of Economics et président du comité d'évaluation de France Relance. C'est toujours le cas d'ailleurs.
Non, on a rendu notre rapport en janvier.
Donc, c'est fini.
C'est maintenant fini. Bon, vous pouvez consulter le rapport, 900 pages, sur le site de France Stratégie. Ouais. Une synthèse de 2 pages.
Oui, mais j'ai consulté la synthèse, il n'y a pas de problème. Vous avez publié « Marie Curie habite dans le Morbihan, démocratiser l'innovation à la République des idées au seuil ». Ça marche ?
Ça marche bien.
Avec Bruno Le Maire en parle dans La Voix Française.
Bruno Le Maire en parle dans son nouveau livre et avec un titre de chapitre, Arthur Mensch habite encore en France, le fondateur de Mistral.
Alors et, Mistral, c'est le grand espoir de l'intelligence artificielle.
Et à voir s'il reste en France ou pas, on débattra plus tard quand on parle de l'IA Act, je crois.
Non, on peut même en dire, parce que vous m'avez fait remarquer ça tout à l'heure avant l'émission, et le réflexe de Robin est de dire, avec ce qu'on vient de faire en matière de régulation sur l'intelligence artificielle, ils ne vont pas le rester longtemps. Vous êtes sûr de ça ?
Je pense qu'on a pris
plus près du micro, Robin.
On a pris une des réglementations les plus strictes du monde.
L'IA Act, qui a été validé
au niveau européen, avec une réglementation qui vise à faire prévalider un certain nombre de modèles dits fondamentaux en amont par un régulateur, que ce soit un régulateur européen ou des régulateurs nationaux. Et ça crée énormément de bruit. En avance de phase, c'est 2026 l'application concrète de cette loi, mais dans la période 2024-2026, c'est un grand flou qui prédomine dans un secteur qui est encore très inconnu, c'est-à-dire qu'on n'a pas du tout la vision de ce qui sera dans 2 ans. Les modèles LLM, les modèles de langage étendu, 2 ans auparavant, c'était quelque chose qui était encore très mystérieux dans les laboratoires. Et donc, en faisant ça, on crée un énorme complexité et beaucoup de bruit dans l'industrie. Donc, il y a de fortes chances, effectivement, que ça puisse empêcher l'innovation sur le continent européen, à mon avis.
Ah oui, c'est sympa, c'est super rassurant. Habite encore en France.
Allez-y. Peut-être une autre perspective, mais l'avenir dira ce qui se passe, mais c'est de dire que l'Union européenne a un marché intérieur qui reste très vaste, et donc en posant certaines réglementations, certaines régulations, on peut essayer d'orienter différemment le développement de modèles, avoir différentes réglementations qui permettent une approche plus éthique de certains algorithmes, combattre des biais algorithmiques, etc. Donc le risque, c'est que d'autres algorithmes se développent ailleurs où il n'y a pas ces régulations et qu'ensuite, par le jeu, par exemple, de la concurrence internationale, en fait, les entreprises étrangères nous prennent des parts de marché à l'international. Mais il y a aussi une chance que des modèles soient développés en Europe avec cette autre approche et que ça réoriente la technologie. Donc, à voir à voir ce qui se produira en effet.
Bon, vous ne décrivez pas forcément une Europe qui perd à tous les coups, c'est ça que je dois comprendre. Les dépenses publiques. Bon, Fipeco.fr fait des photographies toujours hyper précises avec François Eckhall, qui était d'ailleurs avec nous hier sur ce plateau. Et donc les dépenses chez nous, ben, sont pas exactement les mêmes. Elles sont très importantes et puis elles sont pas exactement les mêmes que dans les autres pays. Et notamment, ce qui nous distingue, comme par hasard, c'est la dépense sociale, principalement les dépenses de retraite, aussi la dépense de santé. Et au détriment, nous ils expliquent Fipeco.fr, de l'éducation et de la sécurité intérieure. Vous êtes surpris, Xavier Jaravel, par cette photographie qui semble être une photographie immuable.
Voilà, vous l'avez dit, on n'est pas vraiment surpris parce que c'est le même constat depuis des dizaines d'années. On a des dépenses publiques en général plus élevées qu'ailleurs dans l'Union européenne sur la plupart des postes de dépenses, mais notamment sur les retraites. Les retraités sont plus fortunés, on a un revenu plus élevé que la plupart des actifs. Et en même temps, les retraités sont des électeurs importants, y compris pour le gouvernement actuel. Et c'est ça un peu le cœur du problème, c'est-à-dire sous-indexer les retraites.
Vous allez vous faire plein d'amis là.
Non, mais c'est d'ailleurs dit dans l'article de Fipeco.
Non, mais continuez, parce que généralement, quand on évoque ce sujet, il y a des réactions très vives et très immédiates.
Au final, quand vous avez un problème de finances publiques, vous décidez qui va contribuer. Et jusqu'ici, on n'a pas trop fait contribuer ceux qui sont déjà retraités. On a repoussé, par exemple, l'âge de départ à la retraite. Donc, ça fait contribuer les actifs proches de l'âge de départ à la retraite. Et c'est difficile de changer ça, tout simplement parce que les retraités sont les principaux soutiens du gouvernement. Et c'est tout à fait, du coup, compréhensible que ce soit une population privilégiée par ces réformes. Donc, on en pense ce qu'on veut. Mais c'est quand même le fait central, probablement, de l'économie politique du pays. Et c'est pour ça que c'est difficile de changer la donne. Après, il y a d'autres postes de dépenses publiques qu'on peut réduire. Il y a tout un enjeu d'efficacité de la dépense sur plein d'autres postes, y compris, d'ailleurs, sur l'éducation. C'est vrai qu'on sous-investit plutôt sur ces sujets d'investissement d'avenir. C'est des postes de dépenses moins dynamiques. Mais en même temps, ils restent bien financés par rapport à d'autres pays et avec une efficacité en demi-teinte. Donc globalement, ce qu'on veut, c'est avoir un système qui permette de réduire la dépense publique sur plein de postes, idéalement aussi sur effectivement les retraités pour mettre tout le monde à contribution. Mais c'est très difficile politiquement.
Est-ce que quelqu'un défend les retraités? Parce que là, bon, je vais avoir des réactions très rapidement. Généralement, quand on évoque le sujet des retraités qui sont privilégiés ou en tout cas qui ne sont pas mis à contribution, ça passe très mal auprès des gens qui sont retraités.
C'est difficile.
Vous savez qu'Emmanuel Macron a enterré l'idée d'imaginer qu'on sous-indexerait qu'il y aurait une sous-indexation des pensions en 2025. Idée qui avait été susurrée au début par Thomas Cazenave, le ministre du Budget. Oui, allez-y, Ronald Moal.
Moi, je pense sur ce sujet-là, en fait, il y a deux points. Alors, sur le système de santé, je pense qu'on a un système de santé qui rend trop indolore, finalement, l'indemnisation. On a tous le sentiment ou l'impression que le système de santé est gratuit. Donc ça donne lieu à beaucoup d'abus, je pense. On pourrait y revenir, d'ailleurs, si on parle. L'État-providence, État-protecteur, ça c'est un vrai sujet. Et sur les retraites, je pense qu'on a raté. Alors, si on oublie le débat politique, qui est un vrai sujet effectivement de prise en compte des électeurs, je pense qu'on a quand même un vrai sujet qu'on a raté, sans revenir sur tous les éléments qui me plaident à dire qu'il n'y a plus assez d'actifs par rapport aux retraités, c'est la retraite par capitalisation. Je pense qu'on a raté plusieurs fois l'occasion de mettre en place un système dont on ne veut pas parler, parce que c'est un gros mot, alors qu'il existe implicitement pour ceux qui le peuvent, ça s'appelle l'assurance vie en France,
oui, non, mais
etc.
C'est tout à fait vrai.
On a raté l'occasion de mettre en place un système qui pourrait bénéficier à tout le monde et qui n'est pas
un gros mot. Vous avez vu que les Allemands le font.
Comment ?
Les Allemands le font.
Oui, les Allemands le font.
Mais alors, ils vont mettre en place un fonds public. C'est-à-dire que ce n'est pas l'argent, en fait, des actifs qui va être placé, mais c'est de l'argent public.
Bah, pourquoi pas ?
Donc, c'est d'abord par de l'endettement.
On aurait appelé différemment, ça aurait peut-être mieux marché. De dire qu'on dit système par capitalisation, ça fait tout de suite gros mot, alors qu'en fait, c'est le sens de l'histoire. Donc, je pense que sur la santé, encore une fois, c'est un sujet. C'est trop indolore et les systèmes, l'impression qu'ils coûtent pas cher ou qu'ils coûtent rien. Et sur la retraite, c'est qu'on a raté un virage plusieurs fois, j'ai envie de dire, y compris pendant la mandature d'Emmanuel Macron, bien sûr.
Il faut mettre les retraités en contribution, Romain Rivaton ?
Oui, je pense que c'est assez évident, mais c'est pas du tout
le rôle qui a été. Vous avez tous moins de 50 ans, là, hein, c'est pour ça que vous dites ça. J'ai remarqué que c'est toujours les jeunes qui ont envie de taper sur les retraités.
Moi, j'ai un petit peu blessé.
Moi, j'ai plus aussi. Moi, je suis neutre, vous savez, je dis rien. Mais chaque fois qu'il y a une prise de position en faveur de l'idée qu'il faudrait mettre tout le monde à contribution, généralement, c'est les plus jeunes qui sont favorables à l'idée de mettre à contribution les plus vieux.
Et c'était l'ADN initial du macronisme, hein, je le rappelle, à la base.
C'était quoi l'ADN du macronisme ?
C'était justement de rééquilibrer le niveau de vie entre les actifs et les retraités, avec notamment cette augmentation de la CSG ciblé initialement sur les retraités, et on voit bien qu'au fil du quinquennat et avec la perte croissante du vote des jeunes, hein, puisqu'aujourd'hui je crois qu'on est passé de 30% du vote des moins de 30 ans, on est autour de 5% aujourd'hui pour la liste Renaissance, on voit bien que les orientations politiques amènent à ce qu'on a connu début janvier, c'est-à-dire une réindexation relativement forte des pensions de retraite qui a je sais pas si on peut dire grevé, mais en tout cas qui a coûté 14 milliards en année pleine
cette
pour
année,
les finances publiques.
Oui, donc,
pas cette année, toutes les années.
Enfin, cette année, c'est 14 milliards et demi dans le budget 2024.
Oui, et puis voilà. Il sera 14 et demi plus la réindexation de 2025. C'est 14 et demi pour toutes les années. On a décidé collectivement de consacrer 14 milliards par an supplémentaires à l'indexation des retraites, alors que une sous-indexation est un mécanisme extrêmement indolore sur longue période et qui permet d'ajuster les comportements. On a refusé ce choix-là pour des caractéristiques, comme le disait Xavier Jaravel, éminemment électoralistes. Et c'est dommageable parce que, évidemment, ça obère l'avenir.
Un point d'indexation, c'est à peu près 2,7 milliards. Voilà. Oui, allez-y, Xavier. Prenez la parole librement, tous. Oui. Hein, vous connaissez la maison.
Non, parce qu'on évoque les questions d'indexation. Et donc, juste pour faire le lien avec un point qui peut sembler un peu technique, mais que je pense qui est intéressant sur ça, c'est le calcul de l'inflation, notamment dans des périodes d'inflation élevée comme aujourd'hui. En fait, il faut mesurer l'évolution du panier de consommation des ménages. Et ce panier de consommation peut être différent en fonction de l'âge, en fonction des caractéristiques. Et en fait, en France, on n'a pas un appareil statistique très bon pour mesurer ça. Et donc, moi, une hypothèse que je fais, c'est qu'on a mal, on mesure pas très bien les comportements de substitution. Et donc, c'est-à-dire quand l'inflation est élevée, qu'elle varie entre plein de catégories de biens, les ménages se déportent sur les biens qui ont des hausses de prix moins importantes. Et donc, du coup, l'inflation, il y a une chance, en tout cas, que dans la période récente, elle soit un peu plus faible que ce qui a été mesuré. Ce serait mon hypothèse. Et donc, si c'est le cas, en fait, investir dans le renforcement de l'appareil statistique pour mesurer ces changements de panier de consommation à court terme, ça peut être très important pour, même sans se voir sous-indexer, en tout cas, indexer correctement. Et donc, on aurait peut-être pu épargner quelques milliards chaque année.
J'ai un auditeur qui me dit que je n'ai pas présenté mes deux autres invités quand même. C'est la première fois que ça m'arrive. Avec nous, Ronan Lemoal, fondateur d'Épopée Gestion, et puis Robert Rivaton, directeur général de Stona, les fondateurs de Real Estate, membre du conseil scientifique de la Fondapol, et qui a publié Sourions, nous sommes filmés aux éditions Alpha. Bon, allez-y, Robert Rivaton. C'est très fort. Heureusement que les gens sont plus vigilants que moi.
On parlait de consommation, juste pour rappeler ce chiffre, mais en valeur absolue, la France est le pays qui dépense le plus dans le tourisme, pour son tourisme, pour sa population. Ça reflète juste qu'il y a des gens qui ont de l'argent et du temps pour réaliser ces activités touristiques.
Bon, comment est-ce que vous comprenez l'État-providence qui cède la place à l'État protecteur, Ronan Lemoal ? Parce que moi, j'ai pas tellement compris cette histoire. Alors, la fin de la gratuité universelle, ok, je vois à peu près ce que ça veut dire.
Moi, je pense qu'il y a un peu de ça quand même. Je pense que, typiquement, ma compréhension, c'est qu'aujourd'hui, l'État protecteur, c'est un État dans lequel on n'a plus conscience du coût du système. C'est-à-dire, grosso modo, la santé est gratuite. On parlait de la retraite tout à l'heure, on pourrait multiplier l'éducation, on pourrait multiplier tous les sujets. Et on voit bien qu'on est arrivé à un point où, sur la forme en tout cas, on ne comprend plus exactement comment le système est. Personne ne comprend comment le système est financé, tout le monde croit qu'il est gratuit. Donc ça, je pense que c'est un vrai sujet.
Vous croyez vraiment redonner... que tout le monde croit qu'il est gratuit ?
Ah ben je crois. Aujourd'hui, franchement, aujourd'hui, sur la santé par exemple, plus personne n'a le sentiment que la santé a un coût. Si vous dites à quelqu'un la réalité de ce que coûte malheureusement l'hospitalisation de quelqu'un, par exemple en réanimation, ça va lui paraître effarant par rapport à ce qu'il va payer à la sortie. Heureusement, si tout va bien, ça n'est rien. Donc en fait, je pense que dans l'esprit, il y a un décalage réel entre la réalité des coûts de nos systèmes sociaux et ce que nous payons au final. Donc ça, je pense, c'est un vrai point.
J'ai un exemple d'ailleurs quand même sur la méconnaissance des vrais prix, puisque j'avais un copain qui était urgentiste et qui me disait souvent les gens viennent tard parce que ça les arrange aux urgences. Ils savent pas que par-ci une certaine heure, on est sorti du tarif sécu à 23 euros et qu'on est trois fois plus élevé parce que c'est pas le même horaire. Et là, effectivement, il y a une méconnaissance complète du vrai prix.
Et donc je pense qu'il faut remettre ça. Il faut remettre un peu. Ça paraît peut-être antisocial que de dire ça, mais il faut remettre de la valeur et donc du prix dans le système de santé, notamment le système de protection sociale. Et puis après, il peut y avoir également un problème de fond. C'est le problème de fond, c'est que je pense qu'on a perdu aussi la notion, et ça, c'est un problème beaucoup plus global dans la société, la notion de ce que c'est qu'une collectivité qui vit ensemble, c'est-à-dire des gens qui financent le système social pour que d'autres puissent en bénéficier aussi. Et je pense que ça, c'est un des gros sujets de société qu'on a demain. Donc l'État-providence, l'État-protecteur, c'est aussi remettre un bon balancier au sens de comment le système est financé, par qui, en quoi réussir est une bonne chose, que ça permet y compris de financer ces systèmes. Et ça, je pense, c'est un vrai sujet de société.
Ok, vous voulez réagir, Xavier Jaravel ?
Oui, enfin,
parce que je comprends ce que vous dites, mais je vois pas trop comment on va faire.
Je sais pas exactement comment interpréter le terme d'État protecteur, mais une autre question, c'est la question de la compréhension du système, de son financement. En fait, il y a aussi la question de la lisibilité de la protection et du nombre d'aides auxquelles on peut être éligible, et notamment des taux ensuite marginaux d'imposition que ça crée. C'est-à-dire que si j'ai un salaire plus élevé, je vais perdre accès à telle ou telle aide. Et on sait qu'en bas de la distribution des revenus, vous avez des taux marginaux assez élevés du fait de systèmes comme la prime pour l'activité. mais en fait vous avez plein d'autres, et donc vous avez des gens qui ont des revenus similaires mais qui ont des taux marginaux très différents parce que du fait de leur situation familiale par exemple, ils ont d'autres aides auxquelles ils pourraient perdre accès en ayant tel ou tel salaire. Donc un autre sujet, c'est de rendre le système plus lisible. Votre expression me fait penser un peu à l'idée d'une sorte de Big Bang, où on dirait on change de système. Donc si on voulait effectivement se lancer dans cette direction-là, c'est les sujets liés au revenu universel, ou fusionner plusieurs aides, les rendre plus lisibles, et essayer de réduire les taux marginaux d'imposition, au moins pour certains qui aujourd'hui ont des aides, en fait, qu'ils perdent et qui du coup réduisent beaucoup les incitations à travailler. Et donc ça, c'est un autre sujet qui
me semble
très important.
C'est le grand combat de Gabriel Attal depuis qu'il est arrivé, les incitations à reprendre un emploi et à travailler. Mais là, c'est pareil, ça fait maintenant 3 semaines, un mois qu'on essaye de trouver trouver les outils pour y parvenir. Personne n'a la solution, parce que malheureusement, la remise à plat complète du système vers une sorte d'impôt négatif à la Milton Friedman, c'est pas d'actualité.
Hein. En tout cas, ce serait une interprétation possible de changer d'un modèle.
Oui, mais ça, Xavier, c'est un truc d'expert. Voilà,
et vous avez d'ailleurs une commission d'experts avec Antoine Bozio et Étienne Vasmer qui font un rapport sur ça et qui sera rendu, a priori, en avril ou mai.
Oui, mais j'ai hâte de le découvrir.
Donc, ce serait intéressant de voir ce qu'ils mettent en avant.
Ça vous réaction à ce qu'on vient de se dire, là, sur l'idée de tout. Parce que c'est la suite des propos de Gabriel Attal lors de son discours de politique générale sur la désmicardisation, ce que vous dites. Et tous les problématiques d'effet de seuil. Mais personne n'a la boîte à outils qui permet de régler cette situation. Réaction ou allez-y,
non, pas sur la smicardisation, mais sur la question de à qui la dépense en France profite. Il est ressorti hier sur Twitter à la suite des propos de Le Maire ces magnifiques travaux faits par France Stratégie. Je pense que c'est France Stratégie qui donnait ce que vous percevez en net de l'État en fonction de votre âge. Et donc la courbe est absolument magnifique puisqu'elle montre, on revient sur notre sujet des retraités, mais elle montre évidemment qu'on perçoit énormément plus à partir de 55, 60 ans dans des proportion absolument gigantesque, et donc on voit bien, tout en participant relativement peu à l'effort commun, ce qu'on vient de décrire, donc on voit bien que la question de qui finance et qui reçoit est un sujet légitime et devient de plus en plus un sujet générationnel. Et je pense que vous allez avoir une opposition politique de plus en plus forte, et on le voit aujourd'hui, pourquoi les partis populistes en Europe, et pas qu'en Europe, dans les pays développés en général, captent les voix des jeunes, c'est aussi parce qu'ils ont un discours qui va profondément à l'encontre ou contre cette redistribution qui est très orientée vers des publics plus âgés qui, eux, ont plutôt tendance à voter pour des partis soit centristes, soit des partis qui sont au pouvoir.
Ça veut dire qu'il faut modifier le mode de financement de la protection sociale.
Ah ben c'est... Là, oui.
Voilà.
Oui.
Bah, on va en retomber sur nos histoires de CSG sociale ou de TVA sociale.
Bien sûr.
One more.
Je ne sais pas s'il faut modifier le mode de financement.
Rendons le
mot à je reviens sur mon point malgré tout, parce que je pense que c'est quand même un point de société hyper important. Je pense qu'aujourd'hui, les gens ont le sentiment, encore une fois, que c'est l'État, dans sa toute puissance, qui distribue l'argent, effectivement, qu'il distribuerait mal,
oui,
qu'il distribuerait effectivement aux retraités ou aux gens qui, finalement, ont le moins besoin par rapport aux populations jeunes qui sont en souffrance, effectivement, aujourd'hui. Et on va dire que la crise du Covid n'a pas aidé, parce que la crise du Covid a laissé planer le sentiment selon lequel il suffisait d'ouvrir n'importe quel tiroir et on trouvait des billets de 500 euros ici ou là. Et donc, je pense malgré tout que, et je n'ai pas la solution pour ça, Nicolas, mais je pense que c'est un point fondamental. Je pense qu'aujourd'hui, si on n'arrive pas d'une manière ou d'une autre à restaurer l'idée selon laquelle si on forme bien les gens, si on les aide bien à grandir, entre guillemets, qu'ils ont des jobs dans lesquels ils gagnent bien leur vie, la réussite sera une manière de contribuer au système de protection sociale français. Et je pense que ça aussi, c'est une notion de bascule entre l'État-providence et l'État-protecteur. Et tant qu'on n'aura pas réussi à restaurer l'idée sur laquelle réussir, ce n'est pas mal, gagner de l'argent, ce n'est pas mal, on n'arrivera pas à traiter le sujet. Parce qu'aujourd'hui, la réalité, c'est que c'est bien ceux qui gagnent bien leur vie, qui financent le système de protection sociale. Et heureusement, j'ai envie de dire. On a perdu totalement cette notion. Ce que dit Robin est vrai, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a le sentiment que c'est l'État qui distribue. Et que la richesse, elle vient de on ne sait pas où. Et ça, je pense que c'est un des points clés aussi, dans les années qui viennent, de restauration un peu d'une forme de visibilité, en tout cas.
Je vous avais dit que dès qu'on parle du sujet des retraites, ça réagit. Ben voilà, ça réagit. Les gens me disent qu'ils ont cotisé toute leur vie, qu'ils n'ont rien volé, qu'ils ont droit à une forme de promesse qui est la retraite après avoir cotisé toute sa vie pendant qu'on était en activité. C'est un discours qui s'entend. Oui. Celui-ci m'écrit « Bientôt les retraités devront demander pardon d'être encore vivants ». Vous voyez l'ambiance.
Non, mais effectivement, je voulais dire souligner ce point. Parce que le graphique de France Stratégie qu'évoque Urbain est intéressant, mais effectivement, ne reflète pas qu'il y a eu beaucoup de contributions. Donc les retraités aujourd'hui, hier étaient jeunes et hier ont payé pour les retraités. Ce qui serait intéressant, c'est, et je pense que ce chiffre n'est pas aisément accessible.
Pour rappeler que quand on paye pour la retraite, on paye pour le retraité d'aujourd'hui.
Aujourd'hui,
on ne cotise pas pour soi en mettant de l'argent de côté.
Donc ce qui serait, je pense que le chiffre qu'on voudrait, c'est de calculer un taux de rendement implicite. Donc c'est-à-dire que j'ai payé hier pour les retraités d'hier et aujourd'hui je reçois une retraite. Et donc si j'avais pu le placer dans un système, cet argent dans un système par capitalisation, quel aurait été en fait mon taux de rendement implicite. Mais
le corps l'a un peu fait. Hein.
Et peut-être que le corps l'a fait.
Et donc, c'est pas très en faveur des générations passées. C'est-à-dire que
ça, ça baisse au cours du
très
temps.
En faveur.
Ça
pardon, le rendement est monstrueusement élevé. C'est-à-dire que le 1 euro de cotisation fait dans les années 60, 70, 80 génère aujourd'hui des pensions extrêmement élevées comparé à l'euro d'aujourd'hui qui génère avec le système actuel des pensions extrêmement faibles et qui, s'il était dans un système de capitalisation, générait 3 ou 4 fois plus.
Oui, il y a
correctement géré.
Non, mais il y a une
les quelques fonds de capitalisation qui existent en France, malheureusement, des performances qui sont absolument ridicules par rapport à des fonds de capitalisation normaux. Mais
on pourrait faire mieux quand même.
On va marquer une pause. On change de sujet après. On va parler des banques centrales. Sapiens avait fait une note justement là-dessus sur ce qu'on a payé en tant qu'actif autrefois. Est-ce que ça rapporte en tant que retraité aujourd'hui? Et c'est sûr que là, on trouve un argument qui va plutôt dans votre sens. Bon, je vais regarder les réactions parce que j'en ai plein. Ça doit, à mon avis, être assez trash, j'imagine, comme toujours sur ce sujet. Les banques centrales, bon, la BCE doit baisser ses taux maintenant, tout de suite. La Banque du Japon décide de modifier sa politique de taux négatif. Il y a un mouvement de hausse de salaire au Japon, ce qui est assez rare là-bas. C'est le seul pays où, globalement, les salariés ne demandent pas d'augmentation. Mais le Japon n'est pas un pays comme les autres. On marque une pause, à tout de suite.
Est-ce la bonne décision ? Trop tard pour moi. Prenez vos décisions d'investissement avec le soutien de Clarity AI. Gérez votre portefeuille tout en lui assurant une croissance durable grâce à l'association d'une IA puissante et d'une grande expérience de l'industrie. Notre technologie augmente l'efficacité des processus réglementaires, y compris ceux liés à l'article 29 de la loi Énergie-Climat. Réduisez les risques et atteignez vos objectifs de durabilité en vous basant sur des faits vérifiés et des méthodologies transparentes. Clarity AI, la technologie au service des décisions humaines. Rendez-vous sur clarity.ai et passez à l'action dès aujourd'hui.
Débat et controverses sur BFM Business. Nicolas Dose accueille les experts.
Avec Xavier Jaravel, professeur à la London School of Economics et qui a publié « Marie Curie habite dans le Morbihan, démocratiser l'innovation ». C'est publié au Seuil. La grande idée, c'est qu'on a besoin de tous les talents, y compris féminins, dans les professions d'ingénieurs, notamment dans notre pays. Ronan Lemoyle, je vais quand même présenter tout le monde ce coup-là, qui est fondateur d'Épopée Gestion, un fonds d'investissement régional. Et puis Robin Rivaton, le directeur général de Stonal, fondateur de Real Estate et membre du conseil scientifique de la Fondapol, auteur de Sourillon, nous sommes filmés aux éditions Alpha. Quelle injustice d'augmenter les retraités de 5,3% et de refuser quoi que ce soit pour les fonctionnaires. Les fonctionnaires, on va voir. Hein. Pour l'instant, ils sont en grève aujourd'hui pour exiger une hausse du point d'indice après une réunion qui ne s'est pas très bien passée avec leur ministre de tutelle il y a maintenant quelques jours. Est-ce que tout le monde est d'accord pour dire ici que la BCE doit baisser ses taux tout de suite maintenant ? Ronan.
Moi, je pense que oui. Hein. Je pense que oui, parce que je pense que pour deux raisons. La première, c'est que techniquement, en termes d'inflation, on y arrive, on va dire. Et puis
on y arrive, mais on n'y est pas.
Oui, mais on sait qu'il y a un effet de traîne qui est relativement long. Donc, à un moment donné, c'est un peu comme sur un bateau. Et si on affale les voiles juste à 2 mètres du quai, en général, on se prend le quai.
Je suis d'accord.
Donc, assez rapidement.
Mais la BCE n'a pas envie de se louper. Elle n'a pas envie de donner le signal et de dire c'était pas le moment.
Parce qu'elle a toujours peur, en fait, que les marchés anticipent. Bon, bref. Donc, en tout cas, je pense que techniquement parlant, il y a un sujet. Et alors, sur le terrain, il y a un vrai sujet aussi. C'est-à-dire que ce qu'on observe sur le terrain, nous, on le voit. Quand je dis sur le terrain, c'est côté entreprise ou même côté gros investisseurs, tout le monde attend l'arme au pied, la baisse des taux. C'est-à-dire que plus personne ne fait rien. Les projets s'arrêtent.
Okay, ça fige le truc parce que tout le monde attend.
Et en fait, on est vraiment là-dedans. Nous, on le voit tous les jours aujourd'hui.
Avril, mai, juin, vous tenez 3 mois ?
3 mois, oui, mais c'est vrai que j'observe depuis maintenant 2 mois et demi, 3 mois, un ralentissement très fort des prises d'initiative.
Ah, d'accord.
Très
fort. On attend la baisse du prix de l'argent pour continuer.
Ouais, je pense effectivement.
Mais non, mais ça se comprend tout à fait. Baisse des taux, c'est maintenant. Je ne sais pas si Xavier a un avis. Robin, tout le monde me dit qu'il faut y aller maintenant.
Hein. Oui, pas d'avis spécifique. Effectivement, l'inflation a l'air mieux maîtrisée. Le chômage.
Ce sera au printemps, de toute façon. Printemps, a dit François Villeroy de Gallo sur les ondes de BFM Business, en rappelant que le printemps est une saison. Ouais. Donc ça allait jusqu'au mois de juin.
Et avec des effets quand même qui font que l'affaiblissement de l'euro peut aussi être en jeu.
Qui dit affaiblissement de l'euro dit
augmentation de la facture énergétique, donc dit remontation de l'inflation. Donc il y a quand même des mécanismes globaux aujourd'hui où on est quand même en concurrence avec une zone de l'art qui est extrêmement forte de tout point de vue. Et donc, faut faire. Je pense que c'est les banquiers centraux font très attention à ces sujets.
Pensez que c'est presque plus le taux de change qui aujourd'hui est plus, sert de frein à la prise de décision, en se disant on ne peut pas se permettre d'avoir un euro qui perd trop de terrain face au dollar. Sinon, on a forcément un phénomène inflationniste.
On ramène de l'inflation énormément. Okay. Donc, et ça, c'est un énorme sujet quand même pour la zone euro, dont on a vu que dans une période de dépendance, d'essayer de sortir de la dépendance du gaz russe, on est prêt à acheter l'énergie étrangère, notamment le gaz nord-américain, à des prix très élevés. Si en plus on se prend des parités de change qui sont défavorables, on va réimporter beaucoup d'inflation. Donc c'est notamment en vue de l'hiver 2024. Donc c'est forcément quelque chose que doit prendre en compte la Banque centrale.
Normalement, une politique monétaire n'est pas là pour servir de politique de taux de change. Mais dans la réalité, c'est bien ce qui se passe, évidemment. Et donc, la Banque du Japon, qui prend cette décision cette nuit de remettre ses taux d'intérêt directeurs en territoire positif. À peine positif. Ils étaient à peine négatifs, ils deviennent à peine positifs. Quelle est l'analyse que vous faites de ce changement de braquet de la part de la Banque du Japon? Le Japon étant un pays tout à fait particulier, quand même.
Oui, je pense que c'est vraiment l'exception monétaire.
Oui, c'est le pays qui peut vivre avec 250% de dette publique face au PIB et ça lui pose pas de problème. C'est un cas, le Japon.
Ce qui est très intéressant, c'est que si on prend un peu de recul et qu'on regarde la stratégie des trois flèches de AB, parce que les taux d'intérêt négatifs.
Les Abenomics, là.
Exactement, les Abenomics, c'est les trois flèches. C'est comment je vais essayer de restimuler le Japon après deux décennies perdues. En réalité, ça a plutôt pas trop mal marché. C'est-à-dire que le pays commence à réinvestir. Vous avez par exemple plein d'investissements dans les semi-conducteurs qui sont en train de se passer au Japon. Vous avez une base industrielle et manufacturière qui a bien tenu. La bourse Tokyo Heat est remontée à des sommets puisqu'elle commence à réattirer des investisseurs étrangers. Le pays s'est ouvert à la manœuvre étrangère, ce qu'il n'avait jamais fait depuis. Il y a maintenant 2 millions de travailleurs étrangers dans le pays, ce qui était.
Il y a 2 millions de travailleurs étrangers au Japon.
300 000 il y a 10 ans. Donc vous voyez qu'ils ont vraiment cassé un barrage.
Fameuse tradition japonaise de dire non à l'immigration.
Et donc, c'est un pays qui est en train de redémarrer plutôt pas mal. Et donc, c'est intéressant de voir effectivement qu'il va pouvoir normaliser sa politique monétaire après.
On est loin de la normalisation. Il continue à acheter massivement les obligations publiques.
Mais de moins en moins, quand même.
Oui, de moins en moins.
C'est quand même, c'est intéressant de voir qu'à des moments, on peut utiliser des recettes qui paraissent totalement hétérodoxes du point de vue de la politique monétaire, parce qu'elles étaient hétérodoxes. Alors, dans une économie fermée avec plein de particularités. Mais ça va être un exemple, en tout cas ça va devenir un exemple de ce qu'on peut faire quand on est dans une situation un peu difficile.
Il n'y aurait pas aussi l'idée dans la banque, enfin chez le banquier central japonais d'essayer de faire de jouer justement sur les taux de change pour préserver l'épargne des Japonais?
Alors après, en plus, la Banque Centrale du Japon, elle est cotée. Donc en fait, elle est cotée pour moitié, elle est cotée, la moitié est détenue par l'État. Et donc, elle doit rendre de l'argent, elle. Ça rejoint des sujets de Banque Centrale qui, elles, perdent de l'argent. C'est peut-être pas grave, puisque c'est le Trésor Public qui en est l'actionnaire à 100%. La Banque du Japon, elle peut pas se permettre d'avoir trop de pertes, puisque sinon, elle rend pas d'argent à ses actionnaires, personnes privées, comme vous et moi, qui pourrions être détenteurs des titres de cette banque.
La politique monétaire japonaise, ça vous...
Non, moi, juste un petit point sur moi. Ils jouent un peu sous le fil de rasoir aussi, parce qu'ils ont un endettement, je crois, de mémoire qui est assez élevé. Donc, c'est-à-dire qu'effectivement, il faut qu'ils jouent très sensiblement le curseur, parce que pour le coup, quelques dizaines de points de base de décalage, ça peut vite faire monter la dette à des niveaux élevés. Alors, encore une fois, je critique pas, parce que je partage ce que tu viens de dire à l'instant, mais c'est vrai qu'il y a le petit bouton, il est du chauffage, là, il est à manier avec précaution chez eux.
Le revival japonais, en fait, vous nous décrivez le revival japonais. Bon, à côté de ça, c'est quand même l'un des pays les plus vieux du monde. Et
s'ouvre un peu à l'immigration, c'est un pays qui est éminemment attractif. Il y a une qualité de vie qui est incroyable, donc c'est un pays qui attirera beaucoup, beaucoup de talents. Après, est-ce qu'ils ont cassé cette barrière mentale? C'est une question.
On évoquait le Japon avec une banque centrale qui est en partie cotée. On n'a pas une Banque de France qui est cotée, mais qui affiche, Ronan Le Moal, 12 milliards d'euros. Alors, ils sont allés puiser dans leurs réserves pour éponger cette perte et afficher un résultat à l'équilibre. Mais c'est lunaire d'imaginer qu'une banque centrale se retrouve dans le rouge de 12 milliards d'euros. On se dit, finalement, c'est pas une banque comme les autres. Une banque centrale ne fait pas faillite. Elle peut être en fonds propres négatifs. 12 milliards de pertes, c'est pas grave. D'ailleurs, la Banque Centrale Européenne est dans le rouge également en 2023.
Ça m'a ramené d'ailleurs à mes vieux souvenirs de banquier d'il y a une vingtaine d'années, parce qu'on appelait le FRBG, le fonds de risque bancaire général, qui était quelque chose qu'on dotait tous les ans par le résultat et qu'on pouvait reprendre de temps en temps. Là, il y a le fonds de risque général, donc qui est l'équivalent et qui existe toujours pour le coup.
Le FRG.
Des Banques de France, et qui a été repris à hauteur de 12 milliards pour éponger ces pertes, dont il faut comprendre qu'elles sont liées à un mécanisme très simple. C'est qu'en fait, les banques qui placent leur argent auprès de la Banque de France, qui en a un certain nombre, l'ont placé à un taux plus élevé, parce que les taux ont remonté, donc ça n'échappe à personne. Sauf qu'en face, le replacement de cet argent fait par la Banque de France sur des portefeuilles obligataires était fait sur les portefeuilles obligataires qui ont 2, 3, 4, 5, 10, pas 10 ans, mais 5-6 ans, et qui ont donc été à des taux, eux, plus faibles. Donc en fait, il y a un mismatch, qu'on appelle ça, entre l'argent qu'elle a versé, les intérêts qu'elle paye, et les intérêts qu'elle touche. Donc ça pourrait simplement interroger sur la politique de gestion de bilan de la Banque de France. Elle qui demande souvent à ce que l'ALM soit bien fait, comme on appelle ça dans les banques, bah, là, il y a un petit sujet, manifestement.
Mais c'est une banque centrale dans le rouge à ce niveau-là, c'est pas grave.
Bah, en fait, là, pour le coup...
Parce que ça n'émeut jamais personne.
En fait, ce qui n'est pas grave, c'est que si on fait le parallèle avec les banques de détail qu'on connaît par ailleurs en France, elles ont connu dans les proportions diverses des mécanismes symétriques un peu de même nature. C'est-à-dire qu'effectivement...
Oui, absolument, elles ont des portefeuilles.
Dans l'effet inverse.
Avec de l'obligataire.
Donc en fait, c'est un mécanisme financier un peu normal. Simplement, on pourrait se demander si la politique de gestion de bilan, finalement, d'une banque centrale ne devrait pas être plus précautionneuse encore, de sorte qu'elle s'immunise contre ce risque-là. Alors bien sûr, si elle s'immunise, elle gagnera moins d'argent dans certaines configurations de la courbe de taux. Par contre, elle sera plus protégée si jamais la courbe de taux bouge rapidement. C'est ça la question que ça peut poser. Mais sinon, on va dire que c'est un mécanisme financier qu'on a vu dans la banque de détail symétriquement par ailleurs. Le niveau de perte n'est pas abyssal. C'est repris sur les fonds propres. Donc c'est ces fonds propres qui financent. Hein. C'est pas du tout le contribuable qui met contribution. Mais c'est vrai que ça pose une question sur la politique gestion de bilan.
Vous voyez, c'est un sujet qui est assez dur à comprendre en fait. Comment fonctionne une banque centrale? Pourquoi ne peut-elle jamais faire faillite?
Parce qu'on est là.
Ouais. Xavier, à la fin, c'est quand même l'État français qui contrôle la banque.
Ah, c'est vraiment too big to fail.
Pour le dire très simplement, les banques centrales, en principe, pourraient s'auto-recapitaliser, puisqu'elles peuvent faire de la création monétaire. Donc, au final, ce qui compte, c'est la crédibilité de la banque centrale. Si je crée des fonds propres négatifs à n'en plus finir, je crée de la monnaie, je vais finir par perdre ma crédibilité, l'inflation va être élevée. Donc, c'est ça, au final, le juge de paix. Et donc, différentes banques centrales ont différentes réglementations pour éviter que ça se produise, y compris des cas où c'est le contribuable qui doit payer quand il y a un mismatch sur les taux d'intérêt perçus et les taux d'intérêt payés, comme tu le décrivais très bien. Et donc, par exemple, c'est le cas aux États-Unis où le Trésor américain doit payer pour recapitaliser en partie la réserve fédérale américaine. Pour l'instant, c'est pas des montants astronomiques, donc ça reste sous contrôle, mais il y a a priori une limite qui a trait à la crédibilité de la politique de la Banque centrale.
C'est toujours le même sujet. Voilà. Tant qu'on a confiance dans la monnaie, tout va bien. Et si la confiance dans la monnaie s'en va, c'est là que les choses se mettent. Vous vouliez... On n'avait pas beaucoup d'actu aujourd'hui, très franchement. Hein. Et donc, je vous avais demandé en arrivant si vous aviez des idées, de sujets qu'on pourrait évoquer dans l'actualité économique du jour. Vous m'avez alerté sur un point que je n'ai pas vu dans l'actualité récente, Robin Rivaton, qui concerne la production des panneaux solaires en Chine. Et donc, que s'est-il passé? Racontez-moi. Parce que j'ai trouvé que c'était un sujet passionnant.
Non, mais c'est vrai que quand le leader allemand du panneau solaire fait faillite ou vire la moitié de ses effectifs, on se dit, bon, voilà, ça devait être un petit acteur sur le marché mondial. Quand c'est le numéro 1 chinois, on se dit qu'il y a peut-être quelque chose de plus important. Donc, effectivement, Longi, qui est le numéro 1 du panneau solaire chinois, qui est basé à Xi'an, a viré, en train de licencier un tiers de ses 80 000 employés. Donc, c'est quand même assez massif. Et la raison est toute simple, hein, c'est que il y a eu une explosion de l'offre, de la capacité de production des panneaux solaires qui a fait que les prix ont été divisés quasiment par deux hein, là en l'espace d'un an. C'est quand même, quand on y réfléchit, c'est quand même assez important. Alors la demande suit hein, parce que quand vous avez des prix qui divisent par deux, la demande suit, mais pas aussi vite que toute cette capacité d'offre supplémentaire. Et donc vous avez beaucoup d'entreprises qui sont en phase de restructuration. Le secteur en Chine, il y a plein de boîtes qui sont en train de fermer, qui sont en train de se restructurer, de grandir. Et je trouve que c'est absolument intéressant parce que ça montre à quel point on a beaucoup entendu après la crise du Covid et donc l'inflation qui en est montée, que l'inflation était là, la déflation était terminée, que grosso modo on aurait toujours une inflation qui serait au-dessus des 3 ou 4% maintenant. En réalité, on voit bien qu'il y a plein de produits qui sont absolument essentiels dans nos vies, qui continuent d'avoir des trajectoires éminemment déflationnistes. C'est le cas du panneau solaire que vous décrivez, c'est le cas des batteries, ça va être le cas des puces informatiques avec la dernière qu'a sorti Nvidia, qui nous annonce qu'elle est 25 fois plus puissante que la précédente. Donc on voit bien qu'on a, et c'est une très bonne chose, je veux dire, il faut s'en féliciter, mais il ne faut pas se féliciter des personnes qui ont été licenciées malheureusement en Chine, mais il faut se féliciter de cette course déflationniste, cette course au progrès qui continue et qui fait que elle va rendre quand même nos vies toujours plus agréables. Et parce qu'on a des produits qui continuent d'être fabriqués à des coûts qui sont, quand je dis divisé par deux des produits d'une année sur l'autre, ça paraît quand même assez incroyable. Ça veut dire que l'entreprise a fait des gains de productivité, a fait des choses qui sont très positives.
L'entreprise chinoise.
entreprise chinoise, ouais. C'est plutôt un message. Ouais, alors effectivement, c'est une entreprise chinoise, c'est pas une entreprise européenne, peut-être. Mais on a quand même besoin de panneaux solaires partout dans le monde. Vous n'avez pas non plus, on va pas non plus essayer de se dire que. Donc ça, c'est quelque chose qui, de mon point de vue, est très positif, c'est que il y a encore énormément de déflation possible dans l'économie mondiale par le progrès technologique. Et donc, j'achète pas du tout cette idée de dire que l'inflation va revenir à des niveaux, va toujours se maintenir à des niveaux très élevés.
Alors certains vous diront que c'est le moment de se protéger justement contre la concurrence venue d'Asie. Je me tourne du coup vers vous, Xavier Jean-Ravel, parce que ce sujet sur le libre-échange, qui est devenu vraiment un sujet de crispation, notamment depuis la crise agricole, et puis alors là, on a eu le débat sur le Mercosur. Faut-il aller jusqu'au bout de l'histoire du Mercosur, qui traîne depuis plus de 20 ans tout de même. C'est quand même une histoire. Ça a été signé en 2019, je crois. Mais ça remonte au début des années 2000. Est-ce qu'il faut aller ou pas jusqu'au bout de cette histoire de Mercosur ? Donc la France a politiquement clairement pris une position qui est de dire dans les termes actuels, non. Là, on va voter sur le CETA. Alors c'est un vote un peu hypocrite parce que le CETA commercialement est en vigueur depuis 2017. Ça fait des années que ça tourne. Alors il y a quelques aspects qui n'ont pas été réglés en termes de ratification qui concernent la sécurisation des investissements des entreprises ou encore les organes de règlement des différends, c'est-à-dire le système, un système d'arbitrage. Quelle est votre position sur le libre-échange ? Moi, si j'écoute Robert Yvaton, je dis vive le libre-échange. Et pourtant, aujourd'hui, politiquement et de manière un peu intuitive, c'est plus dans l'air du temps d'envoyer comme message aux opinions publiques, on ne vous inquiétez pas, on va se protéger.
Question large et très très complexe. Pour faire les liens avec un peu ce qu'on disait juste avant, le libre-échange est quand même essentiel pour tous les sujets liés à l'innovation. Alors, Robin avait son exemple sur les panneaux solaires. Si on réfléchit au cas français, par exemple dans l'aéronautique, on a 95% des appareils vendus hors de l'Hexagone. Donc, pour innover, il faut avoir accès à des marchés très très vastes. Et donc, se retirer du libre-échange, c'est... On peut dire que ce serait vraiment, pour un pays comme la France, très 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 difficile. Après, on peut envisager ça au niveau européen plutôt qu'au niveau mondial. Déjà là, ça pose plein de questions parce que le marché unique européen, en fait, il est segmenté de plein de manières, notamment pour les jeunes entreprises, les start-up qui font face à des réglementations différentes dans cet espace européen. Donc, la France, l'Europe sont quand même dans une situation assez différente par rapport à la Chine, par rapport aux États-Unis, qui ont un marché intérieur beaucoup beaucoup plus vaste. Et donc, le premier point que je mettrai en avant, c'est réfléchir aux enjeux pour l'innovation. Et donc, rester inséré dans la mondialisation, plaider pour l'expansion des marchés, c'est très important pour préserver notre capacité d'innovation. Ensuite, le deuxième point, c'est qu'effectivement, tout est loin d'être rose. Il y a des sujets liés aux dépendances, aux vulnérabilités. Ça peut être des dépendances technologiques, comme les semi-conducteurs, comme les principes actifs de médicaments. Mais ça, c'est plutôt un enjeu de ciblage, où on dit, voilà, voici une liste de produits dont on considère qu'ils sont à la fois vulnérables, parce qu'il y a un petit nombre de producteurs extra-européens, et qui sont stratégiques. Peut-être certains produits sont vulnérables, mais on considère qu'ils ne sont pas stratégiques, donc on se permet d'avoir cette vulnérabilité. Et dans d'autres cas, on veut en revanche réduire la vulnérabilité. Ça peut être fait de différentes manières, y compris parfois avec des vulnérabilités réciproques, par exemple sur les semi-conducteurs. En Europe, on a le plus grand producteur de machines utilisées pour faire les semi-conducteurs à Taïwan. Et le troisième aspect, donc ce deuxième aspect, c'est quelque chose sur lequel on travaille un peu, mais pas systématiquement. Il y a la Commission européenne qui parle d'autonomie stratégique ouverte, qui a fait des travaux sur les matériaux critiques, mais on n'a pas d'approche systématique plus large, et c'est pas non plus le cas en France, où on dirait, voici une liste de produits dépendants, vulnérable. Ce qu'on peut.
On a fait des listes de produits stratégiques.
On a fait des listes de produits stratégiques. Bon. Il y en a d'ailleurs plusieurs, y compris une du Conseil d'analyse économique sur laquelle j'ai travaillé. Il y a d'autres listes un peu différentes. Mais à date, il n'y a pas d'ambition claire de ramener cette liste à zéro. Donc, ça, c'est un truc vraiment important. Et le troisième élément, c'est les questions d'inégalité, de perdants et de gagnants. Et donc, sur chaque sujet d'ouverture commerciale, par exemple, sur le CETA, beaucoup disent qu'il y a un gros problème sur l'importation de viande bovine. Il va y avoir une concurrence déloyale avec les producteurs au Canada qui utilisent des antibiotiques, qui utilisent des farines animales, des pesticides qui ne sont pas autorisés en Europe. D'autres disent non, en fait, on peut faire respecter ces réglementations. Donc il y a un débat sur en fait quel serait vraiment l'effet. Donc depuis 2017, en fait, l'importation de viande bovine du Canada n'a pas augmenté, ce qui donne plutôt raison à ceux qui disent que la réglementation est respectée, mais il y en a d'autres qui disent que ce serait différent une fois la ratification complètement aboutie. Et de l'autre côté, il y a des producteurs, par exemple le fromage, où on a eu une hausse de 60% des exportations de fromage vers le Canada depuis 2017. Donc vous avez forcément des gagnants et des perdants.
Il y a toujours des gagnants et des perdants dans un accord de libre-échange.
Ouais.
Bon, et donc c'est un choix.
Et donc c'est un choix et En tout cas, je pense qu'il y a un agenda innovation et un agenda résilience, réduction des vulnérabilités qui sont très clairs, et ensuite un agenda beaucoup plus compliqué sur gagnant-perdant et comment est-ce qu'on peut faire en sorte que les perdants ne perdent pas trop.
Alors, je comprends votre raisonnement, la complexité également de votre raisonnement. Je suis persuadé qu'il y a, si on prenait un panel de Français, ils ne seraient pas de votre avis, parce qu'ils seraient très sensibles à l'article que j'ai lu dans Les Échos il y a 2-3 jours. Je crois que c'est un producteur de panneaux solaires, Robin, en France, qui dit ben, « je suis obligé d'arrêter ». Parce que moi, je ne tiens pas face à la concurrence des produits chinois. Voilà. Et donc ça nourrit cette espèce de désir de protection qui a toujours abouti au même résultat quand on fait du protectionnisme à l'état pur, c'est que ça a un effet, pour le coup, inflationniste. Et généralement, à la fin, c'est le consommateur qui paye. Réaction, là, sur l'histoire du libre-échange, qui continue aujourd'hui à être un sujet éminemment politique, puisque LR, dans une posture quand même très politique, même si le vote du Sénat, globalement, tout le monde s'en fout, menace de s'opposer à la ratification du CETA dans son vote de jeudi.
Ça, c'est un sujet qui est effectivement éminemment complexe. Pour le résumer, en tout cas, moi, ce que je pense de ce point de vue-là...
Mais il est souvent lu avec une extrême simplicité.
Pour le ramener, je pense, à des choses simples, je pense que sur le sujet de l'innovation, la réindustrialisation, etc., je pense qu'il ne tient, entre guillemets, qu'à nous de faire les investissements qui vont bien, l'énergie, pour justement, pas demain matin, mais dans les années qui viennent, réussir... Pour une partie, c'est quand même un des grands enjeux de l'Europe de demain et de la France. On en a parlé souvent, de dire il faut réouvrir des usines en France, faut recommencer à innover, faut recommencer à investir. Et ça, c'est une manière indirecte, à moyen, long terme, effectivement, je ne sais pas s'il faut dire de se protéger, mais en tout cas d'être en situation de compétitivité. Alors, ça pose plein de questions, mais tant qu'on n'attaquera pas le sujet, on n'y arrivera pas. Donc, on a tertiarisé énormément l'économie européenne et française. Si on veut effectivement demain échapper à trop de concurrence des autres, et notamment des Chinois, il faut réindustrialiser nous-mêmes. Ça, je pense, c'est un premier sujet. Et puis, un autre
donc
thème...
Donc, vous croyez à la nécessité de réindustrialisation.
J'y crois, et je pense que...
Non, mais je sais, parce que généralement, c'est un point de vue que je défends.
...de ce que l'argent public, d'une part, et privé, pouvait être fléché sur les sujets qui ont beaucoup de sens, notamment dans les transitions énergétiques. Il y a vraiment un champ des possibles qui est important. Ça, je pense, c'est un vrai sujet.
C'est le grand argument de ceux qui disent qu'il faut achever l'union des marchés de capitaux.
Bah, voilà, je pense que ça, c'est un vrai point. Et le deuxième, qui est beaucoup plus terre à terre, je trouve, c'est qu'on peut pas demander, là, je suis pas en train de faire du protectionnisme, on peut pas demander à nos amants, l'agriculture française ou l'agroalimentaire, de se soumettre à plein de normes et de passer du point A au point B, qui est le point A, on n'est pas bon, au point B, on est vertueux, sans être accompagné. Et l'accompagnement, il passe par des mesures d'accompagnement en interne sans doute, mais il passe aussi, me semble-t-il, ou alors il faut revoir notre manière d'appréhender les transitions, notamment écologiques, il passe aussi par le fait de ne pas les rendre dépendants d'autres qui auraient une manière de pratiquer différente. Moi, je suis terre à terre. Soit on veut cette transition, il faut l'accompagner chez nous, mais il faut aussi faire en sorte que les gens qui la subissent, entre guillemets, ne soient pas désavantagés. Soit on ne la veut pas, et dans ce cas-là...
Désavantagés, ça veut dire qu'on les subventionne.
Je ne sais pas s'il faut les subventionner, mais en tout cas, il y a un vrai sujet. Je pense qu'il y a
parce que là, pour l'instant, on vient de mettre sous cloche des quantités de contraintes vertes qui avaient été décidées en Europe pour calmer la...
C'est beaucoup plus complexe que la subvention. Ça pose des questions également, l'état et l'exploitation. Ça pose plein de questions. Parce qu'en fait, le fait d'arriver au point B, qui est le point des vertus en partant du point A, quand on regarde le chemin à prendre, il y a plein de paramètres, peut-être d'aide, peut-être de taille d'exploitation, peut-être de taille d'entreprise également, qui sont importants. Mais surtout, je trouve qu'on ne peut pas accepter de dire qu'on veut ces transitions et accepter une concurrence, entre guillemets, déloyale de ce point de vue-là. Il faut être cohérent, c'est ce que je dis. Voilà.
C'est du protectionnisme, ce qu'on a fait avec la loi sur la fast fashion, selon vous, Robin Rivaton, ou c'est du bon sens, parce que c'est un marché de produits qui traverse la planète, vendu pour une poignée d'euros, avec une empreinte carbone désastreuse?
C'est un modèle économique qui est dysfonctionnel. La meilleure preuve, c'est que
qu'est-ce qui est dysfonctionnel? Le modèle économique des e-commerce chinois?
Oui, le père de la fast fashion s'appelait Wish. Wish valait 10 milliards de dollars il y a 3 ans. Il a été vendu récemment pour 400 millions de dollars. Donc c'est bien la preuve que le modèle n'existe pas. Temu, donc, qui est le leader de ce secteur-là, qui est la marque d'un géant chinois du e-commerce, s'appelle Pinduoduo, perd 3 à 4 milliards par an pour commercialiser ses produits en Europe. Donc le marché va finir par se réguler tout seul. La question, c'est quand l'État veut intervenir dans ce sujet-là, qu'est-ce que la fast fashion? À quel moment on définit, c'est un prix, c'est une méthode de production, comme si on avait la vision sur les méthodes de production de ces sites-là? Est-ce qu'on cible deux sites? Et dans ce cas-là, c'est du protectionnisme. Pourquoi pas? Mais il faut s'attendre à des mesures de rétorsion de la part...
Le problème, c'est que les questions que vous posez sont essentielles, mais il n'y a aucune réponse dans le texte de loi, la proposition de loi de la députée Horizon.
Comme disent les Américains, c'est de la vertu ostentatoire, donc du virtue signaling. On veut s'afficher pour gagner quelque chose, et donc on s'affiche ainsi. La derrière, il n'y a pas de praticité de la loi, quand bien même, en fait, une loi peut parfois être juste et faire du sens. Si elle n'est pas praticable, ça ne sert à rien de la faire. Ça n'a aucune utilité. Autant faire une déclaration politique, c'est bien, mais on peut pas faire. Aujourd'hui, on fait des lois qui ne sont pas praticables. Et donc, pour moi, c'est une très mauvaise mesure. Ce marché va s'auto-réguler, encore une fois, puisque l'accès aux capitaux occidentaux, notamment au marché de capitaux, est en train de se tarir pour Pinduoduo, pour Wish, je l'ai dit, pour Shine qui a été interdit de se coter à la bourse de New York et qui va se coter à la bourse de Londres. Donc, on voit bien que les marchés de capitaux sont en train de se tarir. Donc, ce modèle-là, il va disparaître de lui-même. Donc,
si vous voyez ce modèle-là, c'est parce que ces sites-là sont menacés.
Ils perdent 10 euros par
mois.
Mais
on vous explique qu'aujourd'hui, ils perdent de l'argent pour rentrer dans la vie des gens et devenir tellement incontournables que après, les choses pourront changer.
Bannissons-les sur ce motif-là. Bannissons-les sur le motif qu'ils capturent de la donnée sur les individus et qu'on considère que c'est une donnée qui est stratégique. On m'expliquera pourquoi choisir une paire de chaussures, c'est stratégique, mais disons que c'est une donnée qui est stratégique. Et dans ce cas-là, bannissons-les pour une question de souveraineté. Pas pour dire que c'est de la fast fashion.
Mais c'est vrai que ça ne répond absolument pas à la définition. Enfin, on ne sait pas ce qu'est la fast fashion dans ce texte. On n'a aucun élément de mise en application. Les décrets devront arriver, mais on verra quand. Et on se dit d'ailleurs qu'il y a des quantités de maisons auxquelles on ne pensait pas au début qui pourraient tomber sous le coup de cette loi et se retrouver pénalisées, notamment des bonnes maisons bien françaises installées chez nous sur le sol.
Je suis assez d'accord avec ce que dit Robin, parce que notamment les modèles vont s'effondrer tout doucement. Et il y a notamment des modèles de marques françaises, je parle de françaises parce qu'on est en France, j'en ai discuté avec eux la semaine dernière, qui notamment vont réinventer des cycles où on va réutiliser, revendre les vêtements, les faire avec des empreintes carbone beaucoup plus faibles. Donc je pense que le modèle qu'il pousse à outrance, qui est finalement de dire ça coûte pas cher, mais en fait c'est du repeat business, au lieu d'en acheter un, on en achète 10 par an, il va s'écrouler assez naturellement, assez vite. Et à l'inverse, je pense qu'on voit émerger des beaux modèles dans lesquels on voit des vêtements fabriqués beaucoup plus de qualité et beaucoup moins de matière, on va dire, non noble, et la capacité effectivement d'en avoir un cycle de vie de ces vêtements qui est multiple. Donc je pense qu'il faut, alors je ne suis pas pour dire qu'il faut laisser le marché faire tout seul, mais je pense que les capitaux vont se tarir effectivement tout doucement, les gens verront que ce n'est pas un modèle économique durable. Donc,
j'avais jamais entendu cette version effectivement des perspectives pour ces sites de e-commerce. D'ailleurs, c'est Nathalie Janson qui réagit. Merci Robin, la fast fashion partira comme beaucoup d'autres épiphénomènes, écrit-elle. On a 3 minutes. Vous étiez au MIPIM à Cannes.
Oui,
il a la casquette nouvelle techno, Robin Rivaton. Il écrit dans l'Express toutes les semaines sur la nouvelle.
Sur la fast fashion, il y a 3 semaines bon, d'ailleurs.
Et d'ailleurs, des chroniques hyper pointues, hein. Faut reconnaître. C'est rare que dans la presse généraliste, on se permette ce niveau d'expertise. Et votre autre casquette, bien sûr, c'est toutes les questions de logement, et vous étiez au MIPIM de Cannes. Je me demandais s'il allait se passer des choses sur le logement, parce que pour l'instant, je ne vois rien venir.
Alors, le MIPIM, c'est un salon de l'immobilier plutôt commercial. Donc, le bureau, le tertiaire, le retail. Ce qui se passe, c'est très simple, hein, c'est que dans beaucoup de pays en Europe, il commence à se faire un repricing. Donc, les gens acceptent que la valeur des actifs qu'ils détiennent dans leur portefeuille n'est pas celle qu'ils voudront demain.
Il était temps.
Donc, il commence à y avoir des transactions qui s'opèrent, tout simplement parce que des opportunités reviennent sur le marché. Je dirais que ça se passe à peu près partout en Europe, beaucoup aux États-Unis, partout en Europe, sauf en France. Moi, je titrerai dans la newsletter que j'écris chaque semaine dans Real Estate, qui s'appelle, je titrerai ce matin, La Grande Glaciation. Et en France, je crains que nous sommes dans la Grande Glaciation avec beaucoup d'épargne des particuliers qui a été mise sur l'immobilier, qui soit gelée, au sens où, en fait, ils ne peuvent pas la retirer. Donc, personne n'a une pression à liquider ses actifs. Des gens qui se satisfont de ne plus acheter, des immeubles qui se vident, des immeubles de bureaux qui vont se vider, et des collectivités territoriales qui n'ont aucun intérêt à opérer des transformations de ces immeubles. C'est-à-dire que vous pouvez garder des immeubles de bureaux vacants pendant très longtemps. Une collectivité, l'immeuble de bureau, hein, toujours la même chose, paye de la taxe sur les bureaux. Si vous le remplacez par un immeuble résidentiel, vous allez devoir créer des services publics locaux pour les habitants et autres. Et donc, à la fin, juste, on peut vivre dans les 10 prochaines années dans la Grande Glaciation, donc avec 2 millions, 3 millions de mètres carrés vides en Ile-de-France.
Sympa, la Grande Glaciation. On a 1 minute 10, Romain Lemoine.
Je partage ce que dit Robin à un détail près. Je pense qu'il y a un sujet quand même sur la construction des logements neufs, notamment dans le social intermédiaire ou le résidentiel libre, comme on appelle ça. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, dans le neuf, le sujet qu'on a, c'est que l'ajustement des prix, il se fait par l'évolution des taux d'intérêt, mais il y a un moment donné où le coût de construction ne permet plus d'absorber la rentabilité que demande l'investisseur, parce qu'in fine, il y a toujours l'investisseur derrière. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, on a un gros débat, ou un gros challenge, à mon avis, sur la capacité, alors je ne sais pas si c'est dans le social, dans l'intermédiaire, ou moi, ce que je connais bien, par exemple, dans tout ce qui est résidence santé senior, par exemple, pas les résidences médicalisées, mais tout ce qui permet à des gens de rester vivre proche de là où ils ont toujours vécu, n'est pas finançable aujourd'hui. Parce que le coût de construction fait qu'une fois qu'on a mis tout bout à bout, il n'y a pas de rentabilité pour l'investisseur qui vient en face. Et ça, c'est un vrai sujet. Et ce coût de construction-là, malheureusement, à part quelques exceptions, il ne va pas revenir en arrière. Donc on a un sujet quand même sur l'ancien, entre guillemets, le bureau, je partage. Sur le neuf et le logement, il y a un petit sujet.
La Grande Glaciation. Waouh. Mais je crains que vous ayez raison. Et puis généralement, en plus, les mouvements de crise dans le logement et l'immobilier, c'est du temps long.
Ah oui. Même si on trouve des solutions, elle prendra des effets que dans 5-6 ans.
Bon, merci Xavier Jaravel. Donc je vous rappelle, Marie Curie habite dans le Morbihan. On en avait parlé au moment de la sortie, publié au Seuil. Ronan Le Moal et Robin Rivaton. On se retrouve demain à 9h.
Nicolas Dose et les experts sur BFM Business.